Tout d'abord, nous avons fait réagir cet après-midi Anne-Emery Thorat-Sainta, les conseillères d'État socialistes en charge de l'instruction publique à Genève, socialiste. On l'a fait réagir finalement à ce témoignage pour lui demander qu'est-ce qui l'avait le plus frappé.
D'abord, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'émotions dans ma réaction, parce que je me dis, au fond, cette jeune fille, en tout cas à l'époque des faits, l'institution n'a probablement pas pu lui répondre. J'ai été très frappée quand elle parle de toile d'araignée. Hein. Quelque part, elle est prisonnière, elle ne sait pas très bien ce qui se passe, elle est sous la coupe de quelqu'un apparemment, et puis elle n'arrive pas à s'en sortir. Et ce qui est vrai, ce qui me paraît extrêmement étonnant, c'est l'attitude, si elle est avérée, hein, si elle est vraie, mais l'attitude des autres enseignants qui n'ont pas vu ce qui se passait ou pas voulu voir ce qui se passait. Et là, il me semble quand même que les choses ont évolué depuis, enfin, j'ose l'espérer en tout cas.
Est-ce que dans, par exemple, l'éducation sexuelle qui est prodiguée pour les jeunes, pour les enfants, les adolescents, est-ce qu'on les sensibilise aussi à ça? On les met en garde au fait que ça peut aussi venir de leurs enseignants?
Je ne sais pas si on les sensibilise précisément au fait que ça peut être leurs enseignants, mais en fait, toute l'éducation sexuelle, depuis déjà maintenant une bonne quinzaine d'années en tout cas, est axée aussi sur la prévention des abus, même chez les tout-petits. C'est d'ailleurs intéressant de savoir à Genève qu'avant même le premier cours d'éducation sexuelle à l'école primaire, il y a un cours sur les abus. Donc je crois que maintenant, on a appris, et les jeunes savent beaucoup mieux quels sont leurs droits. Puis j'ai envie de dire qu'on est aussi dans une société un petit peu, me semble-t-il, différentes. Moi, je suis frappée de tout ce qui sort ces jours, tout ce qu'on entend. On a l'impression que, à l'époque, quand une élève disait quelque chose et qu'elle portait pas plainte, ben, l'institution disait, ben, si elle peut pas porter plainte, au fond, on peut rien faire. Or, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une plainte pour agir. Et au fond, on agit quand on entend ce genre de choses.
Mais justement, dans ce témoignage, il y a un élément qui est très fort et qui est très dérangeant aussi. C'est le sentiment d'un esprit de corporation très fort au sein d'ici du corps enseignant dans cet exemple-là. C'est ça qui lui fait dire qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Parce que les personnes qui sont autour d'elle et qui pourraient potentiellement l'aider, les autres enseignants, ne le font pas, protègent les leurs.
Oui. Alors pour moi, ce qui me paraît important, et c'est peut-être le message à transmettre aussi à tous nos élèves aujourd'hui, c'est que si ils se sentent victimes d'un abus ou s'ils savent qu'un ami, une amie est victime d'un tel abus, il faut en parler vraiment à une personne de confiance. Et si la personne ne réagit pas, il ne faut pas hésiter à aller plus loin et plus haut, si j'ose dire. Parce que au niveau du département, on ne peut rien faire si on n'a pas d'alerte. Mais je comprends que pour une jeune fille, c'est épouvantable, d'autant plus que l'enseignant a un ascendant, il a une forme de pouvoir, une forme d'autorité hein, sur le jeune, et que ça peut être terrible, et j'ai beaucoup de compassion pour cette personne.
Anne-Emery Thorat-Sainta, vous dites, j'espère qu'aujourd'hui les choses se sont améliorées, que ce genre de cas ne se produirait plus, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour éviter au maximum que ça arrive? Quelles sont les directives? Vous dites aussi, il faut que ces élèves puissent parler à quelqu'un, mais est-ce qu'il y a des structures au sein des institutions auxquelles les élèves peuvent s'adresser, peuvent être écoutés, sans peur de représailles, sans tabou?
Alors, on dit toujours qu'il faut s'adresser à une personne de confiance, et ça peut être variable pour les élèves. Parfois, ça peut être l'enseignant, le maître de classe, la maîtresse de classe, maîtresse de groupe, comme on appelle. Ça peut être l'infirmier ou l'infirmière scolaire, ça peut être l'assistant social, ça peut être le doyen, la doyenne, ça peut être le directeur. C'est très variable. L'important, c'est que l'élève s'adresse à quelqu'un en qui il a confiance, qu'il ose parler. Et puis, je dirais que les enseignants sont quand même mieux formés, typiquement au mal-être. C'est intéressant, dans son témoignage, elle dit qu'elle était de plus en plus mal. Hein. Elle n'a pas parlé tout de suite à ses parents, à sa famille, etc. Et ça, les enseignants sont beaucoup mieux formés. On a aussi des procédures sur le dépôt de plainte, sur la dénonciation pénale. Enfin, il y a des choses qui sont récentes, mais en 2014, on a mis en œuvre une procédure sur le dépôt de plainte pénale ou de dénonciation pénale, donc que les enseignants peuvent connaître et que les directions surtout connaissent bien sur les procédures à suivre, enfin, etc. Donc, je pense qu'on a avancé dans ce domaine parce que je crois vraiment qu'on a aujourd'hui dans notre société une tolérance beaucoup moins grande, pour pas dire égale à zéro, par rapport à ce qui a existé par le passé.
Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même une personne de référence ou des gens qui soient spécifiquement formés pour ça? Parce que ça peut tomber sur un prof qui ne saura pas non plus à qui s'adresser, ou peut-être ça va se perdre dans l'institution.
Les enseignants savent qu'ils doivent s'adresser à la hiérarchie, et ça ne devrait pas se perdre en principe. Moi-même, j'ai été enseignante, j'ai été maîtresse de classe, j'ai pu être confrontée à des situations, les élèves parlent quand ils ont confiance dans la personne.
Et s'ils ont confiance en personne, tant pis pour eux.
Non, mais vous n'allez pas me dire qu'on a forcément une situation où on n'a confiance en personne. De toute façon, il y a toujours des personnes, j'allais dire, neutres, qui ne sont pas des enseignants, qui sont les infirmiers, infirmières, conseillers sociaux, etc., qui sont des personnes qui ne mettent pas de notes, donc il n'y a aucun pouvoir d'autorité sur les élèves, hein, dans l'absolu. Mais ça peut être cette personne-là, ça peut être l'infirmière scolaire, mais dans certains cas, l'élève va se confier à un enseignant qu'il aime bien, en qui il a confiance.
Mmh. Vous dites que les choses ont changé, mais il y a quand même des statistiques qui dérangent. Hein. Sur le canton de Genève, selon nos informations, un seul enseignant a été interdit de pratique à cause de dérapage de cette mesure sexuelle. On en compte 38 dans le canton de Zurich, dont la moitié pour des problèmes précisément sexuels. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel décalage ?
Alors, apparemment, ce que la CDIP a mis en place, c'est qu'on doit signaler le cas des enseignants qui sont privés de ce qu'on appelle le droit d'enseigner. Or, le droit d'enseigner n'existe pas à Genève. On n'a pas un droit d'enseigner qu'on donne ou qu'on révoque, hein, en tant que tel. Donc, le choix que Genève a fait apparemment il y a quelques années, c'est de transmettre à la CDIP que, en l'occurrence, c'est un cas de révocation pour un acte de cette nature-là. Maintenant, ceci m'amène à dire que c'est peut-être une question qu'on doit revoir aussi et discuter en termes de critères, quels sont les critères, etc. Mais vous voyez, si le droit d'enseigner n'existe pas à Genève, donc à Zurich, c'est autre chose. Donc c'est possible que simplement les critères de base ne soient pas les mêmes.
On va conclure avec une question peut-être un peu plus générale. Vous l'avez dit vous-même, hein, vous avez été dans le milieu enseignant. On a beaucoup lu le nom du collège de Saussure dans les médias ces derniers jours. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a eu un problème avec cette école à Genève ?
Non, je crois que le hasard, c'est que tout simplement l'enseignant qui a été visé au départ par des accusations, c'est M. Tariq Ramadan, qui l'enseignait à De Saussure et ça amenait à De Saussure à s'intéresser à ce cas-là. Moi, vous savez, j'ai connu dans ma carrière, quand j'étais encore enseignante, hein, pas conseillère d'État, des situations où des directions d'établissement ont dénoncé des faits dans d'autres écoles, des faits qui ont peut-être pas forcément de la même gravité, mais qui ont abouti. Et puis j'ai envie de dire, un enseignant, ça doit être un modèle pour ses élèves. Il n'y a pas que les questions d'ordre sexuel. On ne doit pas tolérer des dérapages d'autres types. Je ne sais pas, des enseignants qui se moqueraient de leurs élèves, des enseignants qui dénigreraient. Enfin, il peut y avoir mille et une raisons qui peuvent amener une direction d'établissement à agir auprès d'un enseignant et à, si ce n'est aller jusqu'à la révocation, en tout cas à engager une enquête et voir une procédure par rapport à ce que ferait la personne.
Mmh. Vous l'avez vécu, vous, une fois dans votre carrière d'enseignant, entendre peut-être qu'un collègue a dérapé avec une élève des informations comme celle-là. Vous avez été confronté à ça ?
Pas directement, mais j'ai eu des collègues qui ont été confrontés, qui l'ont transmis à des directions. Et il y a même eu parfois des directions qui n'ont pas toujours été entendues par la hiérarchie du département.
C'est fort ?
Oui, bah je pense que les choses ont probablement changé aujourd'hui, mais c'est à tous les niveaux. Hein, parfois, je le répète, pendant longtemps, il y a eu cette idée de dire que peut-être que quand il n'y avait pas de plainte formelle déposée, on ne pouvait rien faire. Je pense que ce n'est pas vrai. On peut faire quelque chose même s'il n'y a pas eu plainte. Et dans le cas de l'élève qui raconte, bah, la plainte elle a été déposée des années après. On aurait probablement dû agir plus vite, oui.
Voilà, c'était Anne-Emery Torracinta, conseillère d'État socialiste en charge de l'instruction publique à Genève.
Et Ludovic Rocchi, vous nous avez rejoint, bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc vous qui avez recueilli le témoignage d'Aurélie qu'on a entendu avant la réaction de la conseillère d'État. Aurélie, ancienne élève du collège de Saussure, mais vous avez aussi enquêté avec nos collègues du Téléjournal sur l'affaire Tariq Ramadan à Genève et il en ressort que la détection des enseignants abuseurs a connu des ratés et que le problème reste d'actualité.
Oui, ben, tout d'abord, et n'en déplaise à Anne-Emery Torracinta, hein, qu'on vient d'entendre, le nom de l'établissement du collège de Saussure n'a pas fini de revenir dans l'actualité à travers cette affaire Ramadan. Le principal intéressé, tout d'abord, a choisi deux avocats genevois pour contester les témoignages qui sont parus samedi dernier dans la tribune de Genève. Des témoignages qui évoquaient donc hein, des relations sexuelles avec Tariq Ramadan. Eh bien, mon client nie toute relation sexuelle avec d'anciennes élèves, nous a redit ce matin Marc Bonan, un des deux ténors engagés par Tariq Ramadan. Il ne risque plus rien pénalement car les faits remontent à la fin des années 80, début 90 et ils sont prescrits. Mais Tariq Ramadan veut que les anciennes élèves qui ont témoigné anonymement soient retrouvées et condamnées pour diffamation.
Et ces révélations liées à l'affaire Ramadan ont d'autres conséquences encore ?
Pour commencer, il faut préciser que cette affaire a décidé Aurélie à témoigner sur notre antenne. Et puis, il y a ce flot de témoignages qui se met à émerger un peu parmi les anciens responsables d'instruction publique genevoise. Ils se renvoient un peu chacun la balle.
Vous avez des exemples précis ?
Selon nos informations, les anciens élèves n'ont pas Les anciennes élèves, excusez-moi, n'ont pas osé ou pas voulu dénoncer les faits à l'époque, mais des proches ont tenté de le faire à leur place. La vice-doyenne de l'époque, à De Saussure, nous a confirmé avoir reçu des informations qu'elle a transmises au directeur, mais selon celui-ci, ce n'était pas suffisant pour ouvrir une procédure disciplinaire contre Tariq Ramadan. Ce même directeur dit par contre avoir signifié au professeur de faire attention à son comportement avec des élèves adolescentes. De son côté, Martine Brutschwig-Graf, ancienne, responsable du département de l'instruction publique, confie avoir demandé que Tariq Ramadan continue d'être surveillé de près, parce qu'elle avait reçu elle aussi des témoignages indirects, mais là encore, rien n'a permis d'aller plus loin, de sévir contre l'ex-professeur de philosophie. Alors, oui, cette affaire va encore faire parler d'elle, et si on prend un peu de recul, on peut se dire que cette plongée dans le passé pourrait en tout cas permettre de mieux savoir ce qui a mal fonctionné et ce qui continue peut-être de mal fonctionner. C'est en tout cas l'espoir d'Aurélie.
C'était votre enquête, Ludovic Requis.